Il y a deux dimanches. Donc, on va approfondir, vous allez approfondir un sujet important ce matin. Alors, je vais commencer en vous racontant une histoire qui va nous amener dans notre sujet, se joindre à la famille de Dieu pour entrer dans la mission de Dieu. Et c'est une histoire qui m'est arrivée à moi. Ça va vous permettre de me connaître un petit peu mieux aussi. Ça s'est passé à l'église évangélique baptiste de Côte-des-Neiges vers 1993. J'étais un diacre à cette église-là à cette époque. Un diacre, c'est pas exactement un ancien, mais c'est quelqu'un qui a une tâche officielle pour aider. Et c'est une église qui avait été fondée dans les années 1980 par un noyau d'étudiants québécois qui étaient venus au Seigneur durant la grande vague de conversion à cette époque-là. Mais comme Côte-des-Neiges est un quartier, à l'époque, c'était le quartier le plus mélangé ethniquement de tout le Canada, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est très, très, très mélangé. Et ça, l'Église devenait de plus en plus multiculturelle et l'adaptation des uns et des autres pouvait être difficile. Alors, l'Église commençait à grandir, on comptait à peu près 100 participants et on se réunissait dans un immeuble à bureaux et comme la location était chère en ville, eh bien, on sous-louait à deux autres églises. Notre local. Une église, c'était une église évangélique vietnamienne, puis l'autre, une synagogue messianique. Alors, oui, très intéressant. Et chacun avait ses spécificités. Les Vietnamiens faisaient leur culte en vietnamien. Ils étaient très organisés, très ordonnés. Ils payaient leur loyer à l'avance. Mais par contre, ils étaient légalistes sur des points que nous, on trouvait secondaires. Et puis en plus, ils étaient pas mal charismatiques, fait que nous, qui ne l'étions moins, disons, on trouvait ça parfois épeurant. Mais bon, alors les messianiques, c'est quoi? Ça, c'est la troisième communauté. Les messianiques, ça, c'est des juifs qui ont découvert que Jésus, c'est leur messie. C'est des chrétiens, sauf qu'eux, ils s'appellent des juifs messianiques, puis leur église, ils appellent ça une synagogue. Et alors, eux, ils célébraient en anglais, puis en hébreu. Leur foi était très exubérante, expressive, beaucoup de musique et de danse, politisée aussi. On avait une chaire, et puis, ça c'est... Derrière, c'est le meuble derrière lequel le prédicateur se met, il mettait comme nappe un drapeau d'Israël, et ce qui était quand même assez frappant pour nous. Ils priaient pour la nation d'Israël à même leur célébration. L'autre aspect des messianiques, en tout cas de ce groupe-là, ils étaient désorganisés. Ils avaient beaucoup de bébelles dans leur culte et ils les entreposaient partout. Il y avait comme une corne de bœuf, je crois, ou de bouc, je ne sais pas trop, et qu'on a trouvé quelque part, mais ça servait comme instrument de musique. Ils n'étaient pas ponctuels dans leurs tâches, ni avec leur paiement de loyer. Ils se réunissaient le samedi, puis quand nous, on arrivait, eh bien, le dimanche matin... immanquablement, il y avait quelque chose qui était déplacé, quelque chose de sale, quelque chose que nous, on trouvait ne marchait pas. En tout cas, c'était ça. Puis nous, le troisième groupe, les chrétiens québécois francophones, on était parfaits, en fait. Ouais. Équilibrés dans notre théologie. On célébrait le dimanche comme des chrétiens normaux. Et on célébrait Dieu dans la plus belle langue du monde, le français, n'est-ce pas? Et on se trouvait vraiment raisonnable, on se trouvait les plus faciles à vivre, mais des tensions ont commencé à se développer entre les groupes. Nous, les baptistes, on se disait, c'est toujours nous qui devons prendre l'initiative pour régler les problèmes. On aimerait donc ça que les autres soient comme nous. Ça réglerait tous les problèmes. Et puis, on commençait à réfléchir à des solutions comme, demandons à tel groupe de partir, séparons-nous. Puis même à l'intérieur de notre Église, on se disait, peut-être que ça marcherait mieux si les Québécois travaillaient avec les Québécois, les Haïtiens avec les Haïtiens, et ainsi de suite. Mais quelqu'un, et je crois que c'était la femme du pasteur, elle a eu une idée, elle l'a communiquée, puis elle a dit, pourquoi on ne formerait pas un comité des responsables des trois églises, qu'on se rencontrerait ensemble pour prier, partager, puis discuter de l'administration commune de notre vie ensemble. Puis moi, mon cœur a été touché par cette idée, puis j'ai dit, oui, je me porte volontaire, je vais appeler les autres responsables d'église pour voir si on pourrait pas faire ça. Puis eux, ils ont aimé ça, puis on a formé le comité. C'était Dieu qui était là-dedans, puis ça s'est vraiment bien passé. C'était merveilleux. On a commencé avec la base de notre foi, l'idée que, comme Dieu nous a accueillis en Jésus-Christ comme on est, eh bien, on s'accueille les uns les autres tels qu'on est, et puis on se rencontre comme frères et sœurs en Christ. Puis, à la longue, on a commencé à se soutenir mutuellement, à se comprendre. On est devenus des amis. Et on a aussi commencé à comprendre que les problèmes que chacun vivait, c'était dû parfois à des défis spécifiques à la communauté, au groupe culturel spécifique, les choses qu'eux vivaient ici à Montréal. Puis avec le temps, ce qui est vraiment merveilleux aussi, c'est qu'il y a un projet qui avait émergé. On va faire une célébration en commun un dimanche. Et dans ce culte ensemble qu'on a préparé à l'avance, les trois églises, on s'est dit on va avoir des parts égales. Alors, c'était vraiment le fun. On avait des chants dans les trois langues, avec les trois styles, un sermon en français, des danses juives, un repas du Seigneur fait à la façon vietnamienne. Alors, c'est drôle parce qu'eux, ils insistaient que le pain soit sans levain. Il fallait, parce que dans la Bible, on parlait de pain sans levain. On trouvait ça un peu raide, mais dans les circonstances, c'était pas grave. Et c'était vraiment un culte béni par le Seigneur, couronné d'un repas communautaire international. Ça a été un témoignage pour nos amis qu'on avait invités. Ça a été un symbole d'espoir pour le quartier. Puis pour nous aussi, chaque église, on s'est dit, oui, on a notre mission, Dieu nous demande de persévérer, puis on peut se soutenir mutuellement. Parce qu'on a tous le même Seigneur. Amen. Cette histoire nous rappelle le sens même de ce qu'est l'Église. Jésus invite chacun de nous à se joindre à sa nouvelle famille divine pour être ses témoins dans le monde. Et ce matin, on va considérer un épisode quand même très important dans la vie de Jésus où lui, il va vivre une situation imprévue. Il va causer une controverse dans sa manière de réagir. Et son but, c'est de nous enseigner quelque chose. On va lire ensemble cet épisode. C'est dans l'Évangile de Matthieu, et c'est au chapitre 12. Vous pouvez ouvrir votre Bible. Je vais aussi projeter le texte ici. Ça, c'est dans la version second 21. Mais avant de lire, prions le Seigneur. Jésus, on veut t'entendre ce matin. On veut t'inviter par ton Saint-Esprit à nous parler. Ouvre nos cœurs et sois le bienvenu parmi nous. Amen. Donc, je vais lire. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui lui parlait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis il tendit la main vers ses disciples et il dit, « Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Ce matin, je voudrais lier cet épisode de la vie de Jésus à ce qu'on est en train de vivre à l'Oasis, dans le passé de l'Oasis, son présent puis son avenir. Un des fondements de notre foi, c'est que le même Jésus qui a marché il y a 2000 ans avec ses disciples, c'est le même qui est ici aujourd'hui parce qu'il est ressuscité et il continue la même mission. Il est ici dans une présence réelle, bien que souvent pas immédiatement visible. Il est puissant et il nous enseigne ce matin. Parlons donc de ce passé, de ce présent, de cet avenir que nous vivons avec lui. D'abord, le passé de l'Oasis. Bien, ce passé de l'Oasis, c'est le passé de chacun d'entre nous. Notre passé avec Jésus. Revenons à l'Évangile d'abord. Et avant que cette histoire arrive à Capernaum, Jésus, il a déjà commencé à appeler des gens à le suivre. Il fait irruption dans leur vie. Quand on pense à ceux qui pêchaient au bord du lac, il fait irruption dans leur vie professionnelle, même dans leur vie familiale, puis il leur dit, « Toi, arrête ce que tu fais, puis viens et suis-moi. » Et puis, ils ont cette compréhension que, « Wow, on a devant nous un trésor qu'on ne peut pas juste laisser passer. » Et ils décident de le suivre. Puis, dans cette scène particulière de l'Évangile, Jésus est là, probablement dans une maison, et il est en train d'enseigner, et les disciples sont autour de lui. Puis, c'est quand même assez intime et intense. Et puis, mais autour d'eux, il y a plein d'autres mondes aussi, soit qui ont été appelés plus récemment, ou soit des gens curieux qui ont entendu parler de ce Jésus, de ce qu'il est en train de faire, de ce qu'il promet, et puis qui viennent écouter pour comme évaluer la chose avant de eux aussi prendre une décision pour le suivre. Puis, cette maison-là, eh bien, les portes sont débarrées, puis peut-être même ouvertes. C'est toujours possible pour les gens de rentrer puis venir écouter. Même si l'accès à Jésus est assez fermé, parce que tout le focus est sur son enseignement, eh bien, la porte est ouverte, puis les gens peuvent entrer. Puis, vous savez, c'est la même chose avec nous ce matin. Qui sommes-nous dans ce sanctuaire de l'Oasis? Qui sommes-nous? On est des personnes qui ont été appelées par Jésus à le suivre. Puis, il y a des gens qui le suivent depuis très longtemps. Il y a même des personnes qui, je ne me trompe pas, je pense qu'il y a des personnes qui étaient là carrément au début de la formation de l'Église qui est devenue l'Oasis, j'imagine que c'est dans les années 70. Il en reste quelques-uns et quelques-unes et qui sont ici depuis le début. D'autres qui se sont joints en chemin. Puis il y a aussi des personnes parmi nous qui sont ici juste pour écouter parce qu'ils ont entendu parler, ils ont été invités, puis ils évaluent ce qui se passe. Puis la porte de l'Oasis, elle est ouverte. Elle est débarrée en tout cas. Chacun est invité à venir écouter, puis à considérer Christ comme son chemin, son maître. Il a appelé chacun de nous par un chemin différent. Moi, mon chemin, j'étais un jeune étudiant à l'Université d'Ottawa il y a quand même bien des années. Et c'est ma grande sœur, qui s'appelle Danielle, qui étudiait à la même université que moi, qui m'a invité à visiter un groupe chrétien à l'université. Et dans ce groupe, quelqu'un m'a parlé de Jésus-Christ, puis m'a expliqué l'Évangile. Puis j'ai compris que, waouh, Jésus, c'est un trésor qu'il faut que je saisisse. Jésus, c'est quelqu'un qui peut vraiment donner un sens à ma vie. Et c'est la grâce de Dieu dans mon cœur. J'ai eu ce désir irrésistible. J'ai dit oui. Il m'a demandé de le suivre et tel que je le comprenais à l'époque, je l'ai suivi. Puis me voici, 37 ans plus tard, à l'Oasis. Et ce matin, nous sommes ensemble, moi je suis avec vous, on est une gang de suiveux de Jésus. On l'écoute ce matin, on essaye de comprendre qu'est-ce qu'il nous demande de faire. Et on va le faire par sa grâce. Puis toi, tous, tu as un appel différent du mien, un appel qui est spécial, qui est unique, qui est différent. Puis en même temps, il y a quelque chose qui fait qu'on est tous ensemble à l'écoute de Jésus aujourd'hui. Ça, c'est le présent de l'Oasis. J'aimerais qu'on fasse deux choses, ou je vous invite en tout cas à faire deux choses. Premièrement, soyez reconnaissant pour votre passé avec Jésus-Christ. Même si vous êtes juste à vos débuts, vous êtes ici parce que Jésus est en train de faire quelque chose dans votre vie. Tu es ici parce que Jésus a vraiment fait des grandes choses dans ta vie pour que tu puisses être son disciple. Remercie-le. Et même, tu peux remercier quelqu'un que Jésus a mis sur ton chemin dans le passé, qui a été un instrument pour que tu viennes à Christ. Pourquoi pas lui écrire un petit courriel cette semaine? Hey, je pensais à ça. Le Seigneur t'a utilisé dans ma vie. Merci. Et puis, deuxièmement, soyons dans l'émerveillement par rapport à ce que Jésus fait dans la vie des autres. Regarde autour de toi. Prenons une minute juste pour... Soyez pas gênés. Faites un 180 ou un 360. Mais ne vous faites pas mal au cou, s'il vous plaît. Soyez dans l'émerveillement par rapport à ce que Jésus est en train de faire dans la vie de la personne qui est à côté de toi ou derrière toi. Et apprenons la pratique de prier les uns pour les autres, comme Paul l'a fait ici pour les Philippiens. Il décrit comment il vit ça, lui, l'apôtre Paul. Il dit, dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il prie ça pour les autres. C'est merveilleux, non? Ça, c'est le passé de l'Oasis. Parlons du présent. Puis, avant de parler de la partie difficile du passage, je sais qu'il y a des paroles de Jésus qui sont peut-être un peu choquantes. On va y arriver. Mais regardons d'abord l'appel clé que Jésus donne à ceux qui sont déjà dans la maison. Il dit ceci, en effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Quelle parole étonnante! Luc, lui, il va la transcrire un peu différemment. Enfin, le même épisode raconté dans un autre évangile, Luc va dire, ceux qui écoutent la parole de Dieu et la pratiquent. Et puis Jean, lui, qui parle d'un épisode assez semblable, lui, il va dire, ceux qui font ce que je commande. Jésus dit, ceux qui font ce que je commande. Alors, tout ça, c'est en gros la même chose dont Jésus parle ici. Et donc, pour ce qui est du présent de l'Oasis, Jésus te parle. Jésus te parle et il te dit ceci. Toi, dans la mesure où tu fais la volonté de mon Père céleste, eh bien, tu es mon frère, tu es ma sœur, tu es ma mère. Alors, il ne s'agit pas ici d'essayer d'impressionner Jésus par ton bon comportement. C'est une affaire de cœur. C'est une affaire de relation. Jésus nous dit, à un certain endroit, que la première chose qu'il faut faire pour obéir à Jésus, hormis de commencer à le suivre, c'est de reconnaître qu'on n'est pas capable et qu'on a besoin de son aide, de sa grâce. Il doit le faire en nous. Le premier commandement qu'il nous donne, c'est, on pourrait dire, c'est de crier, « Je vais le faire, mais aide-moi, Jésus! » Dimanche passé, Cheryl et moi, on a assisté à un baptême en après-midi, et c'était une dame, une amie d'une autre église. Elle s'appelle Patricia, cette dame, dans la cinquantaine. Et elle a décidé que ce qu'elle voulait le plus dans sa vie, elle a compris, c'était suivre Jésus. Enfin, c'est ça que ça prend. C'est ça que ça prend. Et elle l'a exprimé par le baptême. Et elle s'est engagée pour la vie, malgré son passé familial vraiment difficile, qui posait quand même des embûches majeures. Premièrement, sa famille est très anti-Dieu, puis deuxièmement, très impliquée dans la sorcellerie et l'occultisme. Et il y avait même des professionnels de ce domaine, des gens qui faisaient de l'argent avec ça dans sa famille, à ses proches. C'est ce que j'ai compris, en tout cas, de son témoignage. Et donc, très, dans un sens, placé dans une situation vulnérable par rapport aux forces des ténèbres. Et c'est ce qu'elle a dit dans son témoignage. Même si elle a reçu des prières de délivrance qu'elle a demandées elle-même, et elle a été libérée, mais elle a admis, je suis vulnérable, je m'accroche au Seigneur chaque jour, mais ça ne l'a pas empêché de s'engager, puis c'est ça, suivre Jésus, c'est avec mes fragilités, j'ai confiance en lui, je me lance, je le suis, un peu comme un enfant que son bon papa lui apprend à marcher, puis il dit, viens, marche vers moi. Puis le petit enfant d'un an qui apprend à marcher, ben, il se lance vers son papa ou vers sa maman. Puis même s'il y a des risques de trébucher, ben, il y va pareil. Il fait confiance à cette initiative de son parent, de son papa qui lui tend les bras. Notre présent à l'Oasis, comme dans le temps de l'Évangile, c'est que Jésus nous dit, dans la mesure où tu as fait ce choix, eh bien, tu es ma famille, tu es ma sœur, tu es ma mère, tu es mon frère. Puis Jésus, il a même étendu la main en disant ça. Et je me pose la question, parce que tous les détails ne sont pas là, est-ce que c'était comme un geste comme ça, là, par-dessus les têtes des disciples qui étaient comme peut-être dans un cercle plus proche de lui, avec les autres derrière? Les détails ne sont pas là, mais j'imagine c'était peut-être un geste comme ça, au-dessus des têtes, ou peut-être que carrément, excuse-moi parce que... peut-être que toucher les têtes, peut-être aussi que sa main était comme ça, tournée vers le haut, puis il montrait sa famille. Et en tout cas, c'est quelque chose qui montre de l'affection. Puis peut-être aussi une genre de félicitation. Une genre de félicitation. Hey, t'as fait le bon choix. Là, t'es mon frère, ma soeur. Puis tu sais quoi? Je vais m'occuper de toi. La Bible nous dit qu'il va nous donner toutes choses. C'est vrai qu'en même temps, nous avons à le suivre, mais il va s'occuper de nous. Puis, petite parenthèse, c'est quand même une phrase. Grammaticalement, Jésus, il fait des choses étonnantes. Parce qu'il dit « celui », et puis c'est masculin en grec, « celui qui fait la volonté de mon Père Céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Alors, peut-être vous trouvez que je me pose des questions bizarres, mais comment est-ce qu'un homme peut devenir une mère ou une sœur? Comment est-ce que... Et alors, peut-être c'est pour ça que Luc il a simplifié ça un peu, mais moi je pense qu'il y a aussi cette façon un peu extravagante de Jésus de parler pour nous faire réfléchir que dans un sens, dans la famille de Dieu, quand on marche vraiment avec Christ, les différences, même de position dans la famille, des fois ça devient quasiment moins important. Les différences d'âge, dans un sens, des fois ça devient moins important. Qu'un enfant qui suit Christ, il devient un frère. Un frère pour un adulte. Ça m'est déjà arrivé, moi, d'écouter une de mes filles à la maison et me dire, mais vraiment, elle est en train de me parler comme une grande sœur. Des fois, c'est pas à mon honneur parce que je me dis, je me fais exhorter par un enfant. Ça peut arriver, mais il y a des choses comme ça qui arrivent dans la famille de Dieu. Enfin, je vous suggère ça et en tout cas, Jésus veut vraiment créer une famille. Il l'a déjà fait. Mais parlons du futur de l'Oasis maintenant. Jésus nous confie une mission. Ça, c'est dans notre futur. C'est dans notre présent aussi, mais c'est aussi dans notre futur. Et revenons à l'Évangile, encore une fois, retournons il y a 2000 ans. Jésus, il a appelé des disciples, puis il leur a dit, viens et suis-moi. Mais en fait, son idée dès le départ, c'était une mission pour le monde entier et pour tous les temps. Puis la règle du jeu numéro un de cette mission, c'est moi le boss. C'est moi le maître, puis pas vous. Les disciples devaient apprendre que c'est lui le Seigneur. Hein, quand il a fait irruption dans la vie de Pierre et André, lâchez tout, et puis viens et suis-moi. Puis, il fait ça dans chacune de nos vies. Il peut faire irruption dans notre vie. Nous, on ne peut pas faire irruption dans son programme puis imposer nos conditions. C'est un peu ça le côté raide de ce passage. Et quand on voit ce qui est arrivé dans cet épisode à sa maman puis à ses frères et sœurs, c'est un peu ça. C'est que Jésus profite de l'occasion pour dire même ma mère, dans mon programme, et c'est pas parce qu'il est prétentieux, c'est parce qu'il vient de l'éternité, il est le Fils de Dieu. C'est le Père qui l'envoie, lui le Fils, pour sauver l'humanité. Et il dit, dans mon programme, même ma maman, et elle doit reconnaître que c'est moi le maître. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que on voit, quand on lit tout le Nouveau Testament, on voit que la maman de Jésus devient une disciple. Elle devient même une disciple non négligeable. Puis ses frères aussi. Vous savez que l'apôtre Jacques, pardon, pas l'apôtre Jacques, mais Jacques qui a écrit l'épître de Jacques, c'était un des frères de Jésus. Il est devenu un responsable d'une des premières églises avec un enseignement vraiment pertinent et fort que nous lisons jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'approche de Jésus, raide, brutale, ça fait mal. Ça fait mal quand on y fait face pour la première fois, mais ça marche. Ça transforme ma vie. Jésus a été le premier à laisser derrière lui sa famille pour vraiment se consacrer à la nouvelle famille de Dieu. Et il n'a pas dit « Ma mère ne veut plus rien dire pour moi ». C'était l'invitation, n'est-ce pas? « Maman, toi aussi tu peux devenir mon disciple ». Je pense que vous m'avez compris. Mais il peut arriver justement des situations spéciales dans nos vies où un appel assez radical de changement peut venir du Seigneur. Et dans cette situation, on doit dire oui. Moi, j'ai vécu une situation que personnellement, j'avais trouvée difficile. Et juste quand j'avais dit que j'avais étudié à l'Université d'Ottawa, c'était à l'école d'ingénieurs, et pendant quelques années, j'ai travaillé comme ingénieur dans une très bonne compagnie d'ingénierie à Ottawa qui me promettait quand même un avenir intéressant. Et le Seigneur m'a montré, Marc, je veux que tu t'orientes différemment. Je veux que tu étudies la théologie en vue d'un ministère, en vue d'un ministère plus prenant, et éventuellement c'est devenu à temps plein. Puis, j'ai compris que c'est Jésus qui me parlait, et il fallait que je dise oui. Et je l'ai fait. Et ça va être la même chose pour chacun de nous, chacun de vous. Et pour chacun, ça va être différent. Et ça va être à des moments différents. Jésus est ton maître. Puis, il t'appelle à faire de lui son maître et à le suivre. Ça ne veut pas dire qu'il va te dire « Abandonne demain ta femme, tes enfants. » Non. Même dans tes engagements naturels qu'il t'a déjà donné, il veut que tu le mettes numéro un. Il veut devenir maître, même dans tes relations de tous les jours, dans ton travail actuel, en restant à son écoute. Quand je donne ma vie à Christ, ça veut dire aussi ma nouvelle famille, c'est sa famille. Je vais répéter ça. Quand je donne ma vie à Christ, ma nouvelle famille devient sa famille. Encore une fois, on va faire un 360 degrés. Regardez autour de vous. Merci. OK, c'est fini. Mais les frères et sœurs que Jésus a appelés, c'est ta famille maintenant. Donc, pose-toi la question, est-ce que je vois mon voisin qui est ici comme ma sœur? Est-ce que je pose des actions concrètes qui montre que les autres personnes qui suivent Christ ici à l'Oasis, c'est ma famille. Et je sais que c'est difficile. Je sais que c'est contre nature. Je sais qu'on a du chemin à faire dans ce chemin-là. Notre ancienne nature, elle dit à Dieu, je ne sais pas comment aimer quelqu'un qui est d'une autre génération que moi. Je ne sais pas comment aimer quelqu'un d'une autre culture, d'une autre nationalité. Mais, et puis écoutez-moi bien maintenant, c'est ça l'appel missionnaire de Dieu pour l'Oasis. C'est ça l'appel missionnaire de Jésus pour l'Oasis. Ça inclut justement de créer une communauté différente, qui va surprendre les gens autour de nous, les gens que nos vies touchent, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon quartier, ça peut être des habitants de mon quartier, ça peut être des autorités dans mon quartier. Ça, c'est cet appel de Jésus d'être une communauté surnaturelle qui invite les gens au royaume de Dieu. C'est ça l'appel missionnaire de l'Oasis. Et puis, ce n'est pas moi qui invente ça. Regardez ces paroles de Jésus dans l'Évangile de Matthieu, un peu avant l'épisode de la maison, puis de sa maman. Il dit au cercle des disciples sur la montagne, il leur dit, « Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pardon, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? » Les collecteurs d'impôts, c'est-à-dire les gens qui se laissent aller, est-ce qu'ils n'agissent pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, ça veut dire visez l'extraordinaire de Dieu pour que votre Père céleste Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Vise l'extraordinaire. Donc, la stratégie pour l'Oasis, telle que je la comprends, c'est ça. C'est de vivre un amour différent, un amour qui va surprendre, un amour qui fait que les gens qui rentrent par la porte parce qu'ils ont été interpellés par ta vie, par l'Oasis, vont voir quelque chose de surprenant puis vont se dire, « Wow, il y a un amour à l'œuvre ici, je voudrais l'avoir pour moi aussi. » Le Seigneur nous a mis dans une situation stratégique unique ici à Montréal, dans le 21e siècle pour avoir un impact pour l'avenir, un impact pour le royaume de Dieu. Puis ma question, c'est, est-ce qu'on accepte l'appel? Est-ce que tu acceptes cet appel? Alors, concluons maintenant. Jésus nous dit ce matin, « Celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Puis, on a vu le passé de l'Oasis qui est le passé de chacun de nous. Jésus nous a appelés. Jésus est en train de t'appeler. Puis il nous appelle à quelque chose de commun autour de lui. Ça, c'est le passé. Le présent, c'est qu'il dit, dans la mesure où tu me suis, puis que vous me suivez ensemble, eh bien, vous allez vivre ma famille. Vous allez être mes frères, mes sœurs, et je vais être là au milieu de vous. Et puis, le futur qu'on vit, qu'on a déjà commencé à vivre, c'est cette mission qui est la nouvelle famille, où d'autres vont venir se joindre, et même, par la grâce de Dieu, des disciples qui nous ont abandonnés en chemin, qui ont comme pensé, c'est pas pour moi, eh bien, par la puissance de Jésus, notre prière, c'est qu'ils vont revenir. Ils vont revenir, puis ils vont redevenir des disciples en comprenant, oui, c'est vraiment Christ qui est maître et roi, puis je veux suivre. Vous savez que même les puissances des ténèbres, les démons, vont voir, comme Paul dit ici aux Éphésiens, il dit que Jésus a créé en lui-même un seul homme nouveau. En parlant de l'unité des chrétiens dans une même famille, venant de peuples différents, ici c'est les juifs et les non-juifs, deux peuples, mais on peut parler de tous les peuples du monde, il dit, Jésus a créé en lui-même un seul homme nouveau, à partir des deux peuples, établissant la paix. Il a voulu les réconcilier, l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Est-ce que vous voulez qu'on fasse trembler les démons? Est-ce que vous voulez changer le monde? Je sais que c'est un peu fou ce qu'on dit là, mais c'est ça l'appel que Jésus nous lance. Et si... Non, je vais le dire différemment. En tant que futur pasteur potentiel de cette Église, moi, je vois que le programme que Jésus met devant nous, c'est qu'on le suive là-dedans. Je pense que c'est notre prochaine étape pour l'Oasis. Puis, ça sera un honneur pour moi de marcher avec vous là-dedans. Mon rôle, ça serait de, premièrement, veiller à ce que Jésus, la porte soit grande ouverte pour lui. Par la parole, et puis en l'invitant par son Saint-Esprit, pour qu'on puisse vraiment l'entendre, qu'il puisse nous guider par son enseignement, par ses interventions. Ça, ce serait un de mes rôles. Mais aussi de veiller sur chacun de vous pour que vous jouiez votre rôle. Mais seulement à condition que vous veillez sur moi, parce qu'on doit avancer ensemble et tous, on va s'accrocher au Seigneur Jésus, parce que sans lui, on ne peut rien faire. Mais avec lui, je pense que, ben, il n'y a pas de limite aux choses étonnantes qu'on va faire. Pour commencer, je vous lance un petit défi. Donc, pendant la période de fraternité communautaire, à la fin de la célébration, allez voir une sœur ou un frère que vous ne connaissez pas bien encore, et puis demandez-lui, comment est-ce que je peux prier pour toi cette semaine? OK? Et dans le défi, il y a, je vous rappelle, c'est pas juste de poser la question, mais c'est de vous souvenir de la requête, puis de prier vraiment. Et moi, je vous dis, c'est fou comment, quand il s'agit d'être fidèle à Dieu, ma mémoire, des fois, elle est décevante. Mais moi, j'écris dans mon agenda, qui est dans mon téléphone, « Prie pour… » Alors, si ça vous prend ça, mettez-vous un petit rappel. J'ai dit à un tel que je prierais pour lui. Faites-le. Écrivez-le.